Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut les amis.
Salut Charline.
Alors, vous savez quoi? On reçoit Najat Vallaud-Belkacem.
Ah, ça me dit quelque chose.
Oui, moi aussi.
Elle est directrice générale Global Affairs chez Ipsos.
Najat Vallaud-Belkacem, elle n'a pas fait autre chose?
Bien sûr, enfin.
Voilà.
Elle est aussi éditrice. Elle a créé une collection chez Fayard qui s'appelle Raison de plus.
Raison de plus pour l'inviter.
Voilà. Ouais. L'idée, c'est de mettre en avant les chercheurs qu'on entend peu dans le débat public.
Ah, super, d'accord.
Mais c'est pour ça qu'on la connaît.
Non, je crois pas.
Sinon, peut-être parce qu'elle a créé une fondation pour aider à l'intégration des réfugiés dans le monde aussi.
Ouais.
Si, mais elle a écrit une chanson pour les réfugiés.
Ça ne doit pas être pour ça qu'on la connaît.
Non, ça m'étonnerait. Mais ça me dit quelque chose quand même. Pourquoi?
C'est quelqu'un qui a vécu le monde politique de l'intérieur.
Comme Carla Bruni.
Non, pas comme ça. Enfin, plutôt quelqu'un qui pourra nous parler des arcanes du pouvoir.
Mais je comprends pas. Je croyais qu'on n'invitait pas les politiques.
Non, mais là, c'est différent. Elle s'est retirée, la vie politique.
Ah, parce qu'elle y était avant. Ouais. C'est peut-être de là qu'on la connaît d'ailleurs, non?
Elle a été ministre de l'Éducation.
Évidemment.
C'était sous François Hollande.
Qui ça?
L'ancien président, il a été pendant 10 ans à la tête du Parti Socialiste.
Du quoi ?
Au théâtre ce soir.
Très belle chute.
Bonjour la France Inter. Bienvenue dans l'émission qui écourte son séjour dans les montagnes de l'actualité pour revenir sur le terrain de la blague. Et voici les 3 informations qui n'ont pas eu le temps de voir la couleur d'un appareil à raclette. La gauche se présente façon puzzle aux européennes. La seule union, c'est celle que l'essayiste Raphaël Glucksmann a nouée avec le socialiste Olivier Faure. Et tiens, comment le PS s'est-il rangé derrière Glucksmann?
Vous me suivez?
Oui.
Pourquoi?
Besoin de compagnie.
Pour se réconcilier avec les intellectuels, le président les invite ce soir à l'Élysée. À 60 à table, le dialogue s'annonce nourrissant, essentiellement. Quel lien la politique entretient-elle aujourd'hui avec nos intellectuels, d'autant qu'Emmanuel Macron avait commencé par les fâcher, souvenez-vous?
Je vais te faire une observation intelligente. Voltaire commence à me casser les burnes.
Une pétition réclame la représentation du clitoris dans les manuels scolaires, dans tous les manuels scolaires. Pour nous habituer à sa représentation, sur les murs de nos villes d'ailleurs, commencent à fleurir les clitoris.
Et ça sert à quoi?
Ok.
C'était Alex, c'est ça, je crois. Hein, on connaît la voix.
Oui, parce qu'Alex, il est quand même favorable à la représentation du clito.
Mais bien sûr.
Il est même pour la commercialisation du clito décapsuleur. C'est vous dire, Alex Vizorek.
Salut, bonjour.
Qu'est-ce que c'est que ça,
Charline Manounaker?
Personne ne sait.
Elle passe des week-ends étranges.
Elle est très fake news en ce moment, j'ai l'impression.
Une toute belle équipe, évidemment, 17h20. Celui qui a un avis sur pas mal de choses et sur les autres, il a pas mal d'avis. C'est Pablo Mira, bonjour.
Salut, Alex. Salut, Charline. Guillaume. Alors aujourd'hui je dis stop aux religions bashing, toutes nos grandes religions sont attaquées et il faut mettre fin à la christianophobie, à l'antisémitisme et autres grossophobies pour les adorateurs de Bouddha, évidemment.
Vous avez oublié l'islamophobie.
Non, je l'ai pas oublié, Alex. Je l'ai pas oublié.
À 17h30. Très honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, il est passé à côté de son sujet. Il m'a dit, j'ai fait un truc sur la bagarre. Et franchement, il a pas dû s'impliquer des masses vu son physique, puisqu'il est toujours vivant. C'est Guillaume Meurice.
Détrompez-vous. Bonjour à tous. Je suis allé au salon du fitness pour me muscler et me préparer un petit peu à la guerre civile qui arrive. Et j'ai croisé des gens impatients qui faisaient la queue devant.
Moi, je vais que s'il y a de la meuf, hein. S'il y a pas de meuf, je viens pas.
Voilà, chacun sa motivation.
Dans tous les sonores aujourd'hui. Et à 17h40, celle qui lit plus de livres en une semaine que Fleur Pellerin n'a lu de Modiano dans toute sa vie, c'est Clara Dubon-Mono, bonjour.
Bonsoir.
De quoi on va parler?
De bruit et de fureur.
Très bien.
Voici celle qui va présider notre conseil de classe de l'actualité. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes.
Najat Vallaud-Belkacem.
Oh, on l'a trouvé.
Charline Dunecker, Alex Vizorek.
Par Jupiter.
Bienvenue Najat Vallaud-Belkacem.
Merci.
Première femme ministre de l'éducation en France, faut-il le rappeler? à ces deux individus à côté de moi, qui ne se rappelaient plus.
Alors aujourd'hui,
vos activités, Najat Vallaud-Belkacem, vous êtes à la fois directrice de la collection Raison de Plus chez Fayard, vous êtes directrice générale Global Affairs du groupe Ipsos,
c'est pour le plaisir de vous dire,
et professeur,
pour payer les impôts,
professeur associé à Sciences Politiques. On a d'ailleurs reçu récemment Yves Citon sur cette antenne, un penseur suisse dont on a beaucoup aimé le livre que vous avez publié, donc Contre-courant politique chez Fayard, dans la collection que vous dirigez, Raison de Plus.
Vous avez vu les ventes augmenter quand il est venu chez nous.
Clairement.
Ah, ça c'est important.
Alors, Najat Vallaud-Belkacem, diriger cette collection avec des intellectuels, des penseurs qui pensent la société, aussi travailler chez Ipsos, vous nous expliquerez en quelques mots en quoi ça consiste, c'est toujours faire de la politique, mais autrement. On dit souvent, les ministres, ça y est, ils ont lâché l'affaire, j'arrête la politique, mais vous faites toujours de la politique d'une autre manière.
Oui, parce qu'en réalité, c'est quand même compliqué de fermer la porte de la politique.
Ah oui, non, vraiment.
Ah oui, en tout cas, de la fermer définitivement ou de la fermer de façon complètement radicale. La politique, elle vous habite. La politique, c'est la conscience que vous avez du fait que on vit ensemble et que potentiellement on peut changer le projet de société qui est en cours. Ouais. Et donc moi, la raison pour laquelle je me suis engagée il y a quelques années, c'est que je voulais le changer de façon active en exerçant des responsabilités. Et à certains égards, j'ai réussi à faire avancer des choses et à changer des choses. Et à d'autres, j'ai été freinée. Mmh. Aujourd'hui, j'ai eu beau me mettre en retrait de la vie politique en tant que telle, ce que j'ai choisi de faire, c'est de la politique. J'ai choisi de rejoindre un groupe d'études, Ipsos, dont vous avez parlé à l'instant.
Oui, là, vous faites quoi, là, précisément ?
Pour précisément mieux comprendre le monde, parce qu'en fait, c'est ça que je fais. Moi, je dirige, donc c'est pompeux le terme global affaire, mais en fait, ce que ça signifie, c'est que Ipsos est une entreprise, un groupe donc, qui réalise des études et qui est installée dans 90 pays dans le monde. Donc, c'est une multinationale qui fait de l'évaluation de politique publique, de l'étude d'impact pour un certain nombre d'acteurs, en l'occurrence ceux dont je m'occupe, des acteurs publics, les organisations internationales, les ONG, qu'on va accompagner pour mieux comprendre dans quelle société ils interviennent, comment rendre plus impactantes leurs décisions, comment évaluer leur politique publique. Et donc, au jour le jour, moi, mes activités consistent à mieux comprendre le monde tel qu'il va, ou plutôt tel qu'il ne va
et
pas
ça,
aujourd'hui.
Ça va, du coup, ouais, c'est ce que
j'ai. Ah, ça va pas du tout. Honnêtement, ça va pas du tout. Et notamment parce que l'une des choses qu'on apprend à mesurer, c'est comment est-ce que les gens comprennent ou ne comprennent pas un certain nombre de phénomènes qui traversent nos sociétés, donc les mauvaises perceptions qu'ils ont. Mmh. On pourrait parler, par exemple, vous avez évoqué la question des réfugiés, on pourrait parler de ce qui se passe autour des réfugiés, de l'hostilité d'un certain nombre de populations d'accueil à l'égard de ces réfugiés. Pourquoi il y a cette hostilité ? Parce que, et on l'a vu récemment avec cet abject attentat en Nouvelle-Zélande, parce qu'il y a des théories qui se disséminent, comme celle du grand remplacement, et qui sont de plus en plus entendues, qui sont de plus en plus appropriées par un certain nombre de gens qui n'ont pas les bons éléments de réflexion ou de compréhension du monde aujourd'hui.
Que et vous donc, complétez c'est ça qui nous intéresse. En dirigeant cette collection et en faisant parler les intellectuels.
Oui, mais là, vous mesurez, vous n'agissez pas.
Alors, la mesure,
ça vous manque c'est... pas ? Ça vous trépignait pas sur place en vous disant il faudrait faire ci, il faudrait
elle
faire ça ?
Elle a perdu les élections, elle a perdu, elle est parlée plutôt dans la plaie.
Non, alors moi je pense, enfin, le moment que je vis en ce moment, pour moi, est un moment justement de retour aux sources, justement, de réflexion, de lecture, de compréhension du monde, des phénomènes, des... Oui, ce que j'appelais les biais cognitifs, etc.
Ça aurait été bien de le faire avant, ça aussi, avant d'être ministre.
Sans doute, sans doute. Alors, en même temps, j'ai eu la chance, moi je ne me plains pas du tout du parcours qui a été le mien, parce que j'ai eu la chance d'exercer des responsabilités assez jeunes, et c'est formateur aussi. Ouais. Et je pense que c'est justement d'accoler les deux, l'expérience de l'action politique, et puis en même temps l'observation du monde, en quelque sorte, qui me rendra peut-être plus acérée encore demain, lorsque, à n'en pas douter...
Vous y reviendrez un jour.
Je reviendrai.
Pablo Mira.
Ouais, non, moi, je voulais savoir, en passant de la politique à l'étude, on va dire, du monde tel qu'il est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous vous êtes rendu compte que vous étiez complètement trompé en tant que politique, et au fait, en regardant de plus près les stats, les données, vous vous êtes rendu compte que c'était pas ça la réalité ?
Sur le slogan « Le changement, c'est maintenant », peut-être c'était pas le...
Peut-être le mouvement qui va avec, à la rigueur.
En fait, de manière générale, vous savez, on parle beaucoup des fake news, par exemple. Tout à l'heure, je vous entendais, Alex.
Moi, j'en ai jamais dit.
Non, mais dire que Charline elle-même, c'est des fake news. Bon, on parle beaucoup des fake news. Et moi-même, quand j'étais en responsabilité, au bout d'un moment, c'était devenu mon objet d'irritation premier que ces fake news. Et ben, ce que je comprends mieux aujourd'hui, c'est que le problème est bien plus grave que de simples fake news.
Ouais.
Alors, je suis désolée, c'est pas très optimiste tout ce que je vous raconte, mais que le problème que nos sociétés traversent, c'est ce que j'appelle des faux savoirs. C'est-à-dire que, en fait, en plus des fake news qui sont vraiment des mensonges relayés avec une intention de nuire, etc., il y a tous ces faux savoirs enfin, des choses qui circulent dans la presse mais qui ne sont pas vraiment documentées. Il y a des faux experts, il y a
des fausses études scientifiques,
des demi-intellectuels, ouais. Il y a, enfin, voilà, il y a des fausses études scientifiques, évidemment. Donc, c'est plutôt ces faux savoirs-là qui font qu'en fait, on est dans des sociétés où on ne sait plus à quoi se fier. Évidemment, derrière tout cela, hein, ça a l'air léger ce que je dis, mais derrière tout cela, c'est la question du populisme, c'est la question de ce que deviennent nos démocraties, c'est la question tout simplement de notre capacité à vivre ensemble.
On comprend tout vachement bien depuis que vous êtes plus ministre. Vous parlez beaucoup mieux, en fait.
Ne faites pas de politique, enfin.
Bah, c'est peut-être la collection, parce que j'ai le plaisir d'y accueillir un certain nombre d'auteurs de talent.
C'est Najat Vallaud-Belkacem, elle est avec nous jusqu'à 18h, youhou! Voici l'ami qui soigne et guérit, la folie qui l'accompagne et jamais ne la trahit. Jacques Higelin, Champagne.
La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisie d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Valet, volage et vulgaire, ouvrez mon sarcophage, et vous, pages pervers, courez au cimetière, prévenez de ma part, mes amis nécrophages, que ce soir nous sommes attendus dans les marécages. Voici mon message. De la mare aux oubliettes, venu du sphère obligatoire. Lutin, Luciole, feu follet, elfe, faune et farfadet, c'est Fred, mes grands carnassiers. Une muse un peu dodue me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer deux, trois pendus attablés qui sont venus sans cravate. Ah, il va marquer. Elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Vampire ébloui par de lubriques vestales et géris insatiables chevauchant des valkyries. Infernales appétits de frénésie bacchanale. Charme nous a mal envahis par la mélancolie.
Envoie satire, joufflu, bouc émissaire, gargouilleuse et mufière aux gorgones. Laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne.
Vous écoutez France Inter, Najat Vallaud-Belkacem, il y a encore un petit reliquat de ministre chez vous. Vous n'avez pas répondu à la question de Pablo Mira.
Non, moi, j'ai pas de reliquat de Jean-Jacques Bourdin à l'intérieur.
En étudiant
le prix de la baguette de pain, Najat Vallaud-Belkacem.
En étudiant à nouveau la société et le monde, est-ce que vous vous êtes rendu compte, c'était la question de Pablo, de quelque chose sur lequel vous étiez trompé quand vous étiez ministre et qu'aujourd'hui, avec une perception plus en phase avec la société civile, les études, etc.
Ah
vous...
si, je sais. Ouais.
Ah. C'était difficile à trouver.
J'arrivais pas à écrire le mot maison.
J'ai fait une faute d'orthographe.
Non mais en fait, c'est pas sur un sujet de fond que j'ai le sentiment de m'être trompée.
Attention, elle va encore pas répondre. Hein. Dès le début de la phrase, on le sent.
C'est qu'en fait, maintenant, je me rends compte que le vocabulaire que j'employais, y compris moi, hein, quand j'étais ministre, m'était complètement à côté de la plaque. À ça, je m'en rends compte, absolument. Quand je vois, par exemple, je sais pas, je relis d'anciens discours, etc., et j'étais pas la seule à le faire, évidemment, et encore aujourd'hui, hein, dans le paysage politique, mais quand je vois qu'on y parle de créer parler des synergies, etc. Ouais. Je me dis, mais sérieusement, à qui ça parlait?
C'est pas faute d'avoir essayé de vous le dire, hein, Cassel, vous êtes avec nous jusqu'à 18h. Je rappelle que vous dirigez la collection Raison de Plus chez Fayard, notamment. On va parler un petit peu d'actualité.
C'est parti. Ah, ouais.
Quand j'aurai l'âge d'être ministre de l'écologie, ce sera plus trop le temps d'agir. C'est maintenant qu'il faut faire les choses.
Le journal de presque 17h17.
Gamin, on attaque.
Et on commence par les titres.
Ce week-end, Emmanuel Macron a donc dû écourter sa petite escapade au ski.
Et oui, la seule descente qui va pouvoir s'offrir désormais, c'est celle dans les sondages.
Samedi, l'acte 18 des Gilets jaunes a laissé les Champs-Élysées dans un sale état.
Et oui, ils étaient tellement dans un sale état, on aurait dit Christophe Castaner en sortie d'after.
Et des brèves.
Oui, parce que heureusement, personne n'a vandalisé les brèves.
Bien dommage.
Commençons par une éphéméride.
Oui, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du recyclage.
Oui, pour les pontes de la République en marche, ça s'appelle le renouveau en politique.
Revenons donc à cet acte 18 des Gilets jaunes sur les Champs-Élysées. Le célèbre restaurant huppé, le Fouquet's, a été vandalisé et incendié.
Et oui, après Mouammar Kadhafi et Liliane Bettencourt, encore une terrible perte pour Nicolas Sarkozy.
C'est très violent.
Oui, c'est très violent. Enfin, on n'avait plus vu une telle violence dans ce restaurant depuis les prix des plats affichés sur la carte.
Autre victime, les Gilets jaunes ont également dévasté la boutique Hugo Boss.
Ouais, vu l'état du magasin, c'est plus Hugo Boss, c'est Hugo Chômage Technique.
Alors enfin, il y a également... Et une réalité, le chômage technique,
ça dénonce.
Gens, oui, c'est vrai. Enfin, il y a également une banque qui a été brûlée.
Et oui, il faudrait peut-être vérifier la limite François Hollande, parce qu'il avait prévenu son ennemi, c'est la finance, c'est peut-être lui. Hein.
Avec tout ça, résultat, Emmanuel Macron envisage d'interdire les manifestations sur les Champs-Élysées.
Oui, bref, à l'avenir, les seuls individus violents qui auront le droit de défiler sur les Champs-Élysées, ce seront les militaires le 14 juillet.
Passons au reste de l'actualité, comme on dit, avec la réforme des retraites, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a évoqué un allongement de la durée de travail.
Oui, c'est logique, il faut bien légitimer la présence de Jean-Yves Le Drian au gouvernement.
Passons à Marine Le Pen.
Oui, elle avait fait une boulette dans l'émission politique, elle avait annoncé un SMIC à 36 € de l'heure en France. Oui, voilà, ça va vite, elle s'est pas rendu compte. France 3 lui a demandé de s'exprimer là-dessus.
Bon, écoutez, soyez gentil de m'accorder que je connais le montant du SMIC en France.
Vous l'avez dit, 36
euros. En réalité, il s'agissait du salaire moyen horaire en France.
Sauf que là, les journalistes sont au taquet et c'est toujours pas ça.
Le salaire moyen horaire en France est de... écoutez, j'ai publié sur Twitter le tableau de tous les pays. Alors si
ce n'est pas le salaire moyen du tout, c'est le coût du travail qui est très différent.
Oui, pardon, vous avez raison.
C'est ça. Très beau, oui, c'est ça.
Elle s'en balèque. Elle s'en balèque. C'est écrit sur ses fiches et elle n'arrive pas à lire ses fiches. Passons à l'international. Oui, le JDD a mené une longue enquête sur Manuel Valls.
Magnifique, deux pages, papier magnifiquement écrit par Victor Hugo. Pardon, par Anna Cabana. Je les confonds systématiquement, autant
aussi,
pour moi. Et on apprend des très très belles choses. Dans l'article, je vous fais une petite lecture. C'est bête à dire, encore plus à écrire, mais ce qui frappe quand on le rencontre aujourd'hui, bien sûr, il est toujours concentré, déterminé, nerveux, tendu vers l'objectif, terriblement méthodique, un tantinet mécanique. Bien sûr, son poing cogne encore souvent dans la paume de sa main.
Oh, c'est beau.
Quand il s'exprime en public, il ne sait pas mieux faire semblant qu'avant.
C'est Balzac.
Mais son menton est tranquille. Ses yeux couleur tempête ne lancent plus d'éclairs incessamment. S'il souhaite faire cesser le bavardage de son directeur de la communication avec un éditorialiste pendant une conférence de presse,
on passerait pas au bref.
Il se contente d'apposer un doigt perpendiculairement à ses lèvres, sans même que son...
On dirait du Clara Dupont-Moi.
Fait une enquête précise et vous n'en voulez pas. Bon, Corrèze. La justice refuse que leur bébé s'appelle Griezmann Mbappé.
C'est bizarre.
Alors, oui, je peux entendre le désir. Moi, si j'avais eu un bébé, de toute façon, j'aurais appelé Somme. Donc, c'était vite réglé.
Et la dernière,
eh bien, joyeux anniversaire à Laetitia Hallyday, qui fête ses 44 ans. Et ça va faire tout bizarre aux invités ce soir quand elle va souffler des bougies. Et qu'après, elle va leur laisser aucune part du gâteau.
17h26 déjà sur France Inter et 17h26 dans le canton de Montchat. C'est ça? C'est à Lyon? C'est
oui.
Là où vous avez démarré votre carrière politique.
Oui. C'est joli comme nom de canton.
Très joli. Et pour entourer notre invité Najat Vallaud-Belkacem.
Eh bien, Clara Dupont-Moneau, Guillaume Meurice et Pablo Mion.
Abordons ce premier sujet avec vous. Pour les élections européennes, il y a autant de partis de gauche que de fromage sur un plateau. Donc on a l'embarras du choix. La seule alliance, c'est le package place publique de Raphaël Glucksmann avec le Parti Socialiste. Benoît Hamon, lui a tenu à réagir dans notre émission là tout de suite.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude.
Benoît, on est là, on ne te lâchera pas.
Magnifique chanson.
Mais oui, bien sûr, Georges Moustaki, ma solitude.
Bien beauté en touche.
Voilà. Najat Vallaud-Belkacem, comment vous observez tout cela maintenant que vous relisez tous les intellectuels, que vous êtes en prise avec la société, le monde, etc., avec un peu de hauteur, cette gauche divisée qui va aux européennes alors que le FN est à nos portes, et ce tout jeune mouvement Place Publique derrière lequel se range le Parti Socialiste, quelle réflexion ça déclenche chez vous ?
Honnêtement, le Parti Socialiste était dans une situation très très difficile depuis 2017.
C'est moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Non, c'est moins qu'on puisse dire. Et moi, d'abord, ça commence par me faire de la peine, par définition, puisque c'est quand même encore des camarades. Hein. Je n'ai pas quitté ce parti et j'y suis attachée. Et la vérité nous oblige à dire que de toute façon, quoi qu'il fasse, le moment ne semble pas être le sien. Parce que c'est ça le problème, c'est que moi, je ne suis pas comme ceux qui prétendent que le Parti Socialiste a juste arrêté de travailler. Vous savez que je connais un certain nombre de parlementaires socialistes, à commencer par mon propre époux, et que je le vois travailler. Et
ouais,
que...
Il glandouille pas mal, hein. Moi je le croise
non,
aux
c'est pas,
colonnes.
C'est pas vrai.
Il a un carpet dès 8h du matin.
Bah, l'autre
il a un
jour...
bon niveau à Candy Crush. Quoi, mais...
L'autre jour, quand il est rentré à 7h du matin, parce que le vote sur les aéroports de Paris s'était fait à 6h30 du matin à l'Assemblée nationale, je peux constater, moi, que le travail est là, que...
vous ne répondez pas à la question.
Non, mais juste, j'y viens. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a du travail qui est réalisé, mais il est inaudible, ce parti. C'est ainsi. Il faut parfois accepter que l'histoire se passe comme ça. Et donc, il faut trouver autre chose que le simple travail de fond pour essayer de réémerger dans l'espace public. Voilà, moi, c'est mon opinion
et
là-dessus.
Et la responsabilité de la gauche qui, en arrivant morcelée, c'est l'éternel problème avec la gauche qui arrive morcelée devant un scrutin. Et puis après, ben, le FN... prospère, quoi.
Mais oui, mais c'est absolument déplorable. Moi, j'en suis très triste. J'ai eu l'occasion, évidemment, de parler à chacun des acteurs que vous évoquez. Et je me suis permise de demander à Benoît Hamon, comme à Yannick Jadot, comme à Olivier Faure à l'époque, comme à Raphaël Glucksmann, d'essayer de trouver un terrain d'entente. Seuls Olivier Faure et Raphaël Glucksmann en ont trouvé un dans les faits. On n'est pas encore le 26 mai. Peut-être que les choses vont évoluer. Mais en tout cas, je trouve que c'est déplorable et qu'à la fin, et l'écologie et le socialisme risquent d'en pâtir, bien sûr.
Tu les connaissais de Mélenchon à Jadot à Hamon, tout ça. C'est un problème d'idéologie ou c'est un problème d'hommes qui s'entendent pas ? C'est des têtus, c'est des ambitieux ?
Je pense pas du tout que ce soit un problème d'idéologie, mais alors vraiment pas. Et quand je regarde les arguments, d'ailleurs, sur lesquels, que ce soit Yannick Jadot ou Benoît Hamon, refusent de faire une union avec le Parti Socialiste et Place Publique. Le principal argument est de dire nous ne voulons pas cautionner ce vieux parti qu'est le Parti Socialiste. Enfin, je veux dire, si le problème de fond, c'est l'existence d'une organisation politique comme le Parti Socialiste, alors vraiment, c'est qu'ils n'ont rien compris. C'est qu'ils ont adopté, d'une certaine façon, même sans le vouloir, le langage macroniste. Parce
que il faut dire aussi
moi...
que le Parti Socialiste a quitté le socialisme, notamment sous la mandature de François Hollande. C'est-à-dire qu'il y a quand même un travail qui a été fait, le SAP, la loi travail, etc.
Non,
etc.
Peut...
Ça a fait quitter les électeurs, les vrais électeurs de gauche sont partis, quoi.
On peut regarder avec du recul, voir avec une certaine distance quelques-unes des mesures qui ont été adoptées sous François Hollande, mais on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est pas vrai, je veux dire. Honnêtement, il y a des mesures sociales, il y a des mesures de société. Les mesures sociales, je ne sais pas, sur, par exemple,
non plus,
le retour
pas.
De la retraite. Non, mais j'en ai plusieurs, mais le retour de la retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler tôt et dans des métiers pénibles.
Ouais.
Non.
Il y en a beaucoup. Il est passé en mode chieur, là, je le reconnais.
Il y en a vraiment beaucoup. Tout ce qui a été fait sur la question de la santé, enfin, aujourd'hui, quand on peut comparer ce qui a été fait sous Hollande et ce qui a été fait aujourd'hui, les créations de postes de professeurs dans l'éducation nationale,
il y a peut-être quelques mesures que, par exemple, Jean-Michel Blanquer ou d'autres sont en train de continuer et qui ont été peut-être amorcées. On ne sait jamais.
Peut-être.
Alors, Jean-Michel Blanquer, pas trop, non. En fait, il continue rien du tout. Mais non, dans le domaine de la santé, en effet, il y a eu des choses qui ont été faites et qui sont continues aujourd'hui. Par exemple, pour lutter contre les déserts médicaux. Enfin.
Ah oui, les uniformes, c'était pas vous. Le flic à l'école non plus. Ah ouais, non, mais c'est ça. Je me disais bien aussi. La chorale, la Marseillaise, le drapeau. Ah
ça,
bah non, c'était pas vous, pardon, j'avais oublié. Allez, il est 17h31 sur France Inter en compagnie de Najat Vallaud-Belkacem. Et puisqu'on va parler religion, lui aussi a quelque chose de divin. Visuellement, c'est un dieu grec. Oh. Olfactivement, c'est un poney Shetland. C'est vous, mon petit ange trapu, Pablo Mira.
Oui, ma louloute, alors vous savez, une grande intellectuelle a dit un jour « Dieu m'a donné la foi qui brûle au fond de moi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Yeah, come on. » Et cette foi, visiblement, c'est devenu un combat de pouvoir la pratiquer librement. Aujourd'hui, beaucoup sont contraints de cacher leurs signes religieux. Dans l'espace public, un juif va cacher sa kippa, un catholique va cacher sa croix autour du cou, un bouddhiste va cacher sa dépression. C'est simple, on a basculé dans l'ère de la cultophobie. On se met à haïr tout ce qui est de l'ordre du culte, que ce soit les grandes religions monothéistes ou encore le spectacle. Pablo Mira dit des choses contre de l'argent au théâtre de l'œuvre à partir du 5 avril. Un spectacle familial et corrosif, selon Miroscope, le magazine des spectacles de Pablo Mira.
C'est un abus bien social. Et
je rendrai absolument l'argent à moi-même. Et la religion qui souffre le plus, c'est bien sûr les musu catholiques, exactement, Charline. Les catholiques, vous savez ce que j'ai lu en préparant cette chronique, enfin, en préparant, hein, ouais, je veux dire pendant le disque qu'on a diffusé il y a 10 minutes. Eh bien, j'ai appris, écoutez bien, qu'en 2018, 1900 lieux de culte chrétien ont été endommagés, et cela va des églises aux boutiques petits bateaux, sans parler de la surreprésentation médiatique des scandales de pédophilie. Alors là, c'est open bar hein, contre les cathos, sans jamais souligner au passage que l'Église est du côté des victimes. Bah si, la preuve, hein, dès qu'il y a une affaire de pédophilie, c'est l'affaire qu'elle choisit d'étouffer, pas la victime. Bref, qu'on lâche un peu la... Eh ouais, réfléchissez
ouais,
un
ouais,
peu,
ouais,
Guillaume.
Ouais, c'est visuel.
Bref, qu'on lâche un peu la grappe aux cathos. Ça fait longtemps que leur religion est une religion apaisée et pacifiste. Aujourd'hui, voilà, la seule chose qu'elle massacre occasionnellement, c'est la musique lors d'un concert de rock chrétien. Et puis, dois-je rappeler que sans les religions, on en serait encore à l'âge de pierre ? Dois-je rappeler que c'est quand même aux musulmans qu'on doit l'invention et la maîtrise du papier ? Et oui, les copains, sans Mahomet, on n'aurait pas Closer. Donc, ne rejetons pas bêtement les religions, sous prétexte qu'elles génèrent parfois certains excès. Une société sans religion, c'est un navigateur sans boussole, c'est une prairie sans chemin, c'est un bateau sans étoiles dans le ciel. C'est un pare-brise.
J'espère qu'ils vont pas se rendre compte que j'ai acheté un nouveau dictionnaire de métaphores. C'est génial, ce truc.
Une piste
avec ça, je sens que je vais pouvoir encore tenir trois saisons de brille.
Un président du Sénat sans diabète. Donc je crois que la situation parle d'elle-même. Alors réapprenons à vivre ensemble, en harmonie. Ouvrons-nous à ce que l'on ne connaît pas. Moi, j'encourage les juifs à lire la Bible, les cathos à lire des boîtes de préservatifs ou les musulmans à lire un contrat de travail pour un poste de cadre. Et surtout, faisons preuve de respect. Faisons preuve de respect envers les croyances de chacun. Car quand bien même il n'y aurait pas de Dieu là-haut, bah, ça ne devrait pas être si grave hein, de croire en quelque chose qui n'existe pas. Hein, personne n'en veut à Guillaume de croire en sa capacité à chanter correctement. Va au bout de tes rêves, mon gars.
Apprends à articuler, mon gars.
Et oh, pour conclure, je suis bluffé, Charline. Car en dépit des insultes, des agressions, parfois des massacres, les filles fidèles de toutes les religions gardent la foi. Mais ce qui m'impressionne, ce n'est pas que les gens continuent de croire en Dieu. Malgré tout, ce qui m'impressionne, c'est que les gens continuent de croire que Dieu croit en l'humanité. Allez, wow. Salut.
Ça, c'est bon.
Merci Pablo Mira, notre éditorialiste à Valeurs Actuelles, un journal qui a fait beaucoup pour votre notoriété, Jean-Paul Balkacem. Il y avait des unes d'anthologie quand même. The Black Keys, Low High.
Nobody to care if you got nobody.
France Inter, vous êtes tombé pile sur Par Jupiter. Notre invitée, c'est Najat Vallaud-Belkacem. Elle est directrice de la collection Raison de Plus chez Fayard. Elle travaille chez Ipsos et est professeure associée à Sciences Po. On va y revenir tout à l'heure puisqu'on va parler clitoris et vous donner des cours sur l'égalité homme-femme. Et on va parler clito avec Najat Vallaud-Belkacem.
Elle était contente, elle est entrée dans le studio, elle a dit quel bon choix de sujet.
Ça, on n'aurait pas osé faire quand elle était ministre, peut-être. On sait pas.
Avec Jean-Louis Debré, on n'a pas parlé clito.
C'est vrai, allez, vous avez le crachoir, prenez.
Ouais, moi je vais vous faire un petit bilan quand même de la situation. Donc Castaner se défonce à la vodka en roulant des galoches sur du Lady Gaga. Emmanuel Macron enchaîne les tartiflettes en bas des pistes. Marine Le Pen place le salaire moyen à 40 000 boules. Le successeur de Jean Jaurès s'appelle donc Raphaël Glucksmann. Léa Salamé va encore louper le prix Pulitzer cette année. Il y a des terroristes néo-zélandais qui viennent se former chez nous quand même à la Éric Zemmour Academy. Pendant que Najat refuse toujours de s'appeler Corinne. Ben on est bien, on est bien, on est bien, on est bien parti pour une petite guerre civile bien sympatoche. Et là, je vous regarde autour de la table, j'ai l'impression qu'on n'est pas prêt. Pablo, mon petit loukoum, va falloir me tonifier un peu ce physique. Hein. Je sais que vous préparez le biopic de Barba Papa, mais s'il y a bagarre, on est mal. Alors bougez pas, je m'en occupe, je suis allé au salon du body fitness ce week-end, entretien du corps. Et dans la file d'attente pour entrer, bah, y a déjà du monde et puis on était dans l'ambiance, il y avait les muscles.
Et en plus, il y a de la meuf. Regarde-moi le joli petit cul là, qui passe à ta gauche.
Alors voilà, c'est pas c'est pas le salon de la finesse, hein, c'est le fitness. Voilà, ne pas confondre, même si effectivement, pour reprendre l'expression de ce Jean-Marie Bigard sous stéroïdes, il y avait de la meuf. J'en ai même rencontré qui faisait quoi ?
Du pump, du body, du piloxing. C'est de la boxe avec du pilates et de la dance.
Donc la dance, c'est pas obligatoirement la musique qui va avec, quoi.
Voilà, c'est un peu comme de la zumba.
Ça se fait pas sur du Michel Thor, par exemple.
Non, voilà.
Voilà, ce qui explique qu'Alex est souple comme un parpaing et musclé comme une serpillière. Donc Alex, hein, on s'y met. Si vous n'aimez pas la dance, vous mettez du Wagner. Hein, on connaît vos penchants germaniques. Alors, ne pas oublier également que nous sommes dans la Startup Nation, hein, donc qui dit muscle dit nouveauté.
C'est une innovation. Ce sont des tapis de course connectés sur lesquels on va pouvoir courir en temps réel à plusieurs, le 100 mètres, le 200 mètres ou le 5000 mètres. Et avec à la fin, bien sûr, le temps et le score. Donc à la fois, ça s'adresse aux salles de sport, mais également, par exemple, dans l'entreprise, pour tout ce qui est team building.
Voilà, team building sur tapis de course connecté. Alors ça, ça peut aider, par exemple, les CRS hein, pour créer l'esprit d'équipe. On peut même imaginer des LBD connectés ou des bouteilles de Ricard connectées, enfin tout ce qui touche à l'univers du CRS. Mais on peut aller plus loin avec l'escalier connecté, hein, donc une sorte de tapis roulant avec des marches, quoi, avec une fille dessus qui va comment ?
Bah super, super, c'est un peu éprouvant, mais bon, ça fait du bien de faire un peu de sport.
Quelle est la différence avec des vrais escaliers ?
C'est beaucoup plus rapide, hein. Faut monter vite, faut pas être lent.
Mais par exemple, si vous prenez un vrai escalier et que vous le montez vite, est-ce que c'est pas la même chose ?
Oui, si, un peu, mais c'est moins naturel.
Voilà, c'est ça qu'on aime, c'est le naturel. Formidable invention, hein, puisque l'ascenseur social est en panne. On a donc l'escalier électrique qui vous permet de faire du surplace. Hein, donc une belle métaphore de la Macronie, finalement. Mais on peut bien évidemment toujours aller plus loin. Hein, ce qui est très bien pour s'entraîner, on le sait, c'est soulever des roues de tracteur. Ça, bon, ça vous le faites assez peu, mais croyez-moi sur parole, c'est hyper bien. Mais des fois, on n'a pas de roues de tracteur, tout simplement. Et ben, c'est pas grave, on a des machines.
C'est en fait une machine qui remplace tout simplement la roue de ferme, la roue de tracteur. Il faut juste se mettre en position de squat. Il faut juste lever la machine et la pousser tout simplement.
On peut dire que c'est une roue de tracteur en machine, quoi.
Exactement.
Voilà, et voilà le travail en espérant d'autres innovations, bien évidemment, la charrue connectée, voilà, le bidon de glyphosate aussi connecté. Alors ça fait un peu salon de l'agriculture comme ça, mais je vous garantis que j'ai croisé de beaux bestiaux avec des machines toujours plus surprenantes, dont une qui faisait bosser tous les muscles en même temps.
Le gros avantage par rapport aux appareils classiques de salle de sport, c'est que là, en 25 minutes, on va solliciter tous les groupes musculaires. Le lendemain, il a les courbatures partout, quoi. C'est ce qu'on leur dit, là.
L'avantage, c'est qu'après, on est niqué de partout le lendemain.
Voilà, c'est ça.
Voilà, ça vous nique tout le corps en une seule fois. Ça vous habitue aux sensations, donc, après manif. Ça, c'est important. C'est la Benalla 2000. Voilà, je vous rappelle qu'on est là pour se préparer à la guerre. Et moi, c'est vrai que le sport, je suis croyant, mais pas pratiquant. Et il y a des combinaisons pour les gens comme moi.
On se muscle sans rien faire.
Ça, c'est pas mal, se muscler sans rien faire. Ouais,
ouais, c'est nickel, c'est le top. Hein.
Donc, il y a juste à enfiler la combinaison.
Et après, ça envoie de l'électrostimulation musculaire, ça stimule les muscles.
Donc on peut bouffer des crêpes au Nutella sur le canapé en même temps ?
Il y a ça, il y a de ça.
Eh ben voilà, ça c'est bien, ça me va, huile de palme et Netflix. Et voilà, à moi le corps de Cristiano Ronaldo. Alors ne prenez pas un bain par contre avec la combinaison, parce que sinon vous aurez le corps de Claude François, bien évidemment. Mais on peut encore faire mieux avec tous les produits qu'on peut bouffer. C'est vrai qu'il y a de la protéine, il y a tout un tas de produits qui sont présentés pour être plus compétitifs.
Nous on est là sur le sport, donc on vend, on essaie d'expliquer aux gens
que ça agit sur les... En fait, c'est super dur parce qu'en fait, on essaie d'avoir un discours intelligent. Je sais qu'il faut pas dire ça. Et en fait, ce sur quoi on bosse, c'est d'expliquer. La molécule, en fait, elle marche comme un diapason. Ça fait partie de ces trucs qui sont des, en fait, des molécules adaptogènes qui aident le corps à mieux fonctionner. Et en fait, ça marche, ça fait du plus et du moins. Ça pousse pas le... Enfin, c'est super. En fait, c'est assez compliqué.
Ouais, c'est pas simple. C'est comme la situation en France en ce moment. Voilà. Dans le doute, je veux dire, j'ai tout avalé d'un coup. Je suis prêt pour la baston. Comme on dit aux Fouquettes, je pète le feu.
Merci Guillaume Meurice.
Je vous en prie à votre service.
Najat Vallaud-Belkacem est entre notre compagnie.
Bien entendu ça.
Attention, on vient avec le sujet suivant.
Bah non, on peut jouer avec.
Il y a le clitoris qui arrive, ne zappez pas.
Clara Dupont-Mono va venir bien sûr. Et parlons un peu pensée complexe. Tiens. Ce soir, Manu pousse les meubles à l'Elysée. C'est soirée disco avec 60 intellos. Des scientifiques, historiens, des philosophes. Le président s'était fâché avec certains intellectuels au début du quinquennat. Mais là, il change de cap. Là, oui. Et il décide de renouer avec eux pour mettre un point final aux consultations du grand débat national. Alors, comment parler de sujets du quotidien et les élever vers l'intellectualisme avec Manu ?
Pour les hommes, que se produise ce qu'ils souhaitent n'est pas mieux. Eh bien, c'est pareil pour les pêcheurs. Plus ils pêchent, moins il y a d'anchois.
Quoi ?
Il faut éteindre la démesure plus encore que l'incendie. Mais vous entendez ce qu'il nous dit, Héraclite ? Et là, Arthur, ben, vous embrayez sur la peur qui gangrène le monde, voilà. Chaque sujet doit permettre de s'élever. C'est comme les exercices spirituels d'Ignace de Loyola. C'est comme ça qu'on gouverne le monde, par la pensée qui forge une vision. C'est une spirale. C'est quand même pas sorcier.
Thierry Lhermitte, donc Quai d'Orsay, de Bertrand Tavernier, où il joue le rôle, bien sûr, de Dominique de Villepin. Najat Vallaud-Belkacem, aujourd'hui, vous êtes directrice de collection, une collection qui s'appelle Raison de plus chez Fayard. Je le dis tout à l'heure, vous avez notamment édité le livre de Yves Citon. Vous mettez en lumière des penseurs qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans les médias. Quel lien tissent aujourd'hui les intellectuels et les politiques ? Parce que les intellectuels et le citoyen, bah on sent bien que le citoyen, il est friand d'aller se frotter aux essais, aux livres, etc. Mais alors c'est pas pour spécialement parler d'Emmanuel Macron, mais disciple de Paul Ricoeur, etc., pensée complexe, on s'attendait peut-être à ce qu'il soit un peu plus nourri d'intellectuels. Est-ce que dans la classe politique en général, il y a vraiment cette rupture entre intello et politique ?
Non, mais d'abord, les intellectuels, c'est fait pour être indépendants, précisément. Hein, c'est ce qui fait leur force. Et l'idée, c'est pas que les intellectuels viennent au secours du politique. En revanche, ce que j'ai constaté pendant les années où j'étais aux responsabilités, c'est que parfois la société aurait besoin d'être plus éclairée pour que les débats publics soient de meilleure facture. Et que malheureusement, trop de sujets, on le voit aujourd'hui honnêtement, sur la laïcité, sur les questions de sécurité, sur les questions d'école, sur plein de sujets, souffrent d'être malmenés ou d'être orphelins du débat public parce que ceux qui savent vraiment, c'est-à-dire moi ce que j'entends par intellectuel, entendons-nous bien, hein, c'est pas les idéologues, c'est pas les éditorialistes, c'est des chercheurs qui ont un sujet sur lequel ils travaillent pendant des années. Donc ils ont fait leur thèse, ils ont fait des recherches, ils ont publié dans des revues à comité de lecture, donc ils ont un vrai savoir. Et ben ces personnes-là, malheureusement, sont trop absentes du débat public et viennent trop rarement l'éclairer, parfois pour des raisons qu'on peut comprendre, de souhait de garder une certaine neutralité, une certaine distance aussi avec le débat public, parce que parfois le débat public est un peu anxiogène dans sa façon d'être, et que parfois ces chercheurs ont besoin de calme pour pouvoir travailler.
Puis les politiques ont qu'à lire leurs écrits aussi. Ils s'en donnent pas le temps, peut-être.
Oui, mais il y a des politiques qui ont envie. Enfin, moi, personnellement, je me considérais comme telle. J'avais vraiment envie de travailler de façon étroite avec les intellectuels. Mais je constatais qu'ils n'étaient jamais ou quasiment jamais dans les tribunes des journaux, à venir éclairer avec des essais accessibles au plus grand nombre. Ils sont plus férus de travaux académiques, généralement, pour des tas de raisons, hein, y compris le fonctionnement de l'université française.
Et puis se frotter aux politiques, ça a l'air...
Que d'essais accessibles à tout le monde. Et donc, cette collection, elle a vocation précisément, mais elle n'est pas la seule, bien entendu. Il y a aussi des revues qui ont vu le jour depuis 3-4 ans. Là, je pense par exemple à une revue comme AOC Média, que j'aime beaucoup, qui a aussi, ou The Conversation, je donne les titres parce que ça alimente des gens. Il faut aller lire ça, c'est sur Internet. Ouais. Mais c'est des bonnes revues qui donnent la parole à des chercheurs qui vous parlent de l'actualité, donc on n'est pas complètement déconnecté, mais sur la base d'un vrai savoir, pour le coup, et c'est extrêmement enrichissant. Donc cette collection, elle a cette vocation-là aussi.
Non, moi j'avais juste l'impression qu'au contraire, on n'avait jamais eu autant de sources qui venaient du milieu universitaire, des sciences humaines, des sciences sociales, et qu'on n'a jamais été aussi informé, y compris via la communauté scientifique. Et que pourtant, ça ne change pas grand-chose. On a même l'impression que ça ne marche pas, au fait. Plus les citoyens sont éclairés, plus c'est le bordel.
Non, enfin, il y a deux choses. C'est-à-dire que oui, il y a de plus en plus de savoir et de canaux d'information, et c'est difficile de trier dans tout ça. Et d'ailleurs, c'est là que se glisse généralement la désinformation que j'évoquais tout à l'heure. Donc, il faut aussi accompagner, et c'est le rôle notamment de la presse et des médias, que d'accompagner justement les lecteurs vers de vraies sources. Mais au-delà de ça, moi, ce que je constate depuis 2017 en particulier, je pense que c'est lié à ce qu'a créé Emmanuel Macron, qui d'une certaine façon a fait exploser quand même la gauche et la droite, on peut dire ça comme ça. Et donc, du coup, on a le sentiment qu'il n'y a plus vraiment de débat à gauche, il n'y a plus vraiment de débat à droite. Et moi, ce que je crois constater, c'est que le débat, c'est peut-être transposé du côté des intellectuels. Je trouve qu'on lit de plus en plus, dans la presse par exemple, de tribunes signées par des intellectuels sur les questions qui ont d'effrayer l'actualité, le harcèlement sexuel, l'écologie,
etc. Et on s'y raccroche. Oui.
Et je trouve que ça fait vraiment un bien fou. Donc c'est peut-être le positif qui naîtra de cette espèce d'explosion du paysage politique.
Najat Vallaud-Belkacem, restons dans la lecture justement. Avec un choix littéraire de Clara Dupont-Monod.
Oui, parce que l'actualité, Charline, ici on relie l'actualité à la littérature, Najat Vallaud-Belkacem, il faut que vous le sachiez. Donc l'actualité, les nouvelles manifestations qui ont eu lieu à Alger, vendredi, magnifique démonstration quand même, que l'on peut être en colère sans tout défoncer. Et il se trouve que la littérature, qui est votre compagne désormais, puisque vous êtes éditrice, eh bien la littérature aurait certainement salué les manifs algériennes, puisqu'elle a toujours eu un faible pour la révolte et un vrai mépris pour la basse violence. C'est son côté Jean Jaurès. Et il y a un livre qui illustre cet esprit.
Tu fais le lien.
Je dis... Je dis un livre. En vérité, c'est un roman qui m'a laissé au tapis, qui m'a percé le cœur et qui m'a laissé le souffle court. Ça s'appelle Honorer la fureur de Rodolphe Barry. Et c'est vraiment le genre de roman que vous ouvrez sans attente particulière et vous prenez la baffe du siècle. Flashback, nous sommes en 1941 dans les librairies américaines et on pose sur les étals un livre qui vient de sortir et qui va devenir culte. Il porte un nom magnifique, il s'appelle « Louons maintenant les grands hommes » et personne ne le sait, mais ce livre va nourrir des générations d'écrivains, fera trembler le pouvoir et sera révolutionnaire. Et ce livre « Louons les grands hommes » se compose de photos signées d'un grand photographe qui s'appelle Walker Evans et d'un texte signé James Hadji, et pour la première fois, il montre les pauvres en Amérique. Et c'est James Hadji, cet écrivain, que Rodolphe Barry prend et qui raconte dans Honorer la fureur, parce que tout le monde l'a oublié, mais James Hadji, la postérité est ingrate, il se trouve que c'était un des génies les plus en colère et les plus sublimes que la littérature ait jamais porté. À la base, ce gars-là, il est journaliste au magazine Fortune. Et il se trouve qu'il est très malheureux, puisque chaque jour, le journal devient de plus en plus libéral, et chaque jour, Hadji, qui est un écorché vif, le vit très très mal. Il est complètement indifférent au profit, à l'argent, ce qui n'en fait pas donc un homme de gauche. Et son patron, excédé par sa résistance, l'envoie au fond des États-Unis avec une mission, c'est de voir comment vivent les Américains après la Grande Dépression. Et donc, un après-midi de juin 1936, voilà James Hadji qui a pris son pote photographe Walker Evans et ils se mettent en route. Hadji a sur les genoux une carte, ils tracent leur trajectoire. Objectif, aller vers les coins les plus dévastés d'Amérique, là où la sécheresse et la crise ont ruiné les fermiers. Ils arrivent en Alabama, où le revenu annuel moyen à ce moment-là, par habitant, est de 177 $. Et dans la chaleur accablante, ils tombent sur une famille de fermiers, moins méfiante que les autres, et qui acceptent de vivre avec eux pendant des mois. Et ce que vont vivre et voir Hadji et Evans les sidère. Je cite, « Chaque soir, Hadji lit sur les visages hagards la trace de cet épuisement qu'on éprouve après avoir vécu ou assisté à un drame. Face à cette pauvreté, au-delà de la pauvreté, il comprend que son défi, à la mesure de son indignation, sera de maintenir vivante la mémoire de ses déshérités. » Et cela donnera « Louons maintenant les grands hommes », c'est-à-dire la mauvaise conscience de l'Amérique qui remonte sous forme de livres et de photos. Hadji n'agit pas au nom du bien, il n'est pas dogmatique, il ne sait même pas ce que c'est que le PS par exemple. il fallait. Non, mais il réagit épidermiquement à l'injustice et il se trouve que l'épiderme, son épiderme, c'est l'écriture. Et quand, des années après, alors qu'il est comme d'habitude dépressif, alcoolique, qu'il jongle entre une ex-femme et un découvert bancaire, et donc que le cinéma flaire son génie et lui demande d'écrire, que fait James Hadji ? Il écrit le scénario de La Nuit du Chasseur, qui vous dira peut-être quelque chose, chef-d'œuvre de Charles Laughton. Et là aussi, Hadji réussit, comme dans Louons maintenant les grands hommes, à éclairer la face noire de l'Amérique. Et tout ceci est raconté d'une écriture de Rodolphe Barry, donc, qui ressemble à un souffle court, inquiet, qui vous tient en haleine littéralement, et en fait à l'image de James Hadji, qui était l'homme intègre et en colère, qui a réellement mis sa conscience sociale à la place du cœur. Vous l'aurez compris, c'est un grand livre, dont je vous redonne les références. Honorer la fureur de Rodolphe Barry est paru chez Finitude.
Merci Clara Dupont-Monod.
Qu'est-ce que vous parlez bien.
C'est vrai qu'elle parle bien.
Ouais. Clara donne très envie de lire les livres.
Je pourrais faire de la politique.
Et nous, c'est de la merde par contre.
Oui, un peu, j'aime ça. Faut le dire.
Vous avez... Vous m'avez donné très envie de me convertir à pastafarisme. Voilà. Alors, Najat Vallaud-Belkacem est avec nous. On va aborder ce troisième sujet. Ah. Car les Françaises réclament la présence du clitoris dans tous les manuels scolaires de SVT. Une pétition circule et les femmes commencent à dessiner des clitos sur les murs pour concurrencer les dessins de Bistouquette. Eh oui. Et quand elles dessinent un clitoris, elles doivent encore écrire à côté « This is not a bretzel », par exemple. Alors, première question, si je vous donne une feuille blanche et un bic, Najat Vallaud-Belkacem, vous avez été... Vous avez occupé le portefeuille et l'égalité droit aux femmes.
L'éducation nationale.
Que, le petit devoir de Najat Vallaud-Belkacem, est-ce que vous êtes capable. Mais vous n'êtes pas obligé de. Vous pensez.
Ouais. Je pensais que je n'avais pas le choix en fait.
Non, mais vas-y. Vous savez le dessiner ou pas? Parce que moi, c'est récent que je sache le dessiner.
Faites un smiley, ça ira. Dessiner un smiley.
Ah, ça ressemble.
Un cœur.
On dirait un cœur, c'est mignon. Ouais, c'est un peu ça, c'est stylisé, mais ouais.
Vous avez dit les Françaises réclament, mais les Français aussi, pas besoin d'être une nana pour réclamer.
Vous avez signé la pétition, Guillaume Meurice.
Ça, c'est pas un critère parce que je signe toutes les pétitions qui tombent sous la main. Mais...
C'est au-delà du symbole que le clitoris figure dans les manuels de SVT. La ministre de l'Éducation que vous avez été et à l'égalité homme-femme, etc. C'est... J'imagine que vous êtes à fond pour.
Ah oui, moi je suis absolument pour.
Ouais.
Non,
c'est compliqué de dire
non. Soyons clairs. Non seulement je suis pour parce que la question, en fait, si vous voulez, les manuels scolaires jouent un rôle de représentation dans nos sociétés qui est énorme. En fait, il faut jamais le minimiser parce que les jeunes générations grandissent avec ça. Donc la représentation du monde, elle est directement tirée des pages de ces manuels scolaires. Donc comme vous le savez peut-être, pendant très longtemps, les femmes, et encore aujourd'hui c'est pas réglé, ont été totalement sous-représentées, mal représentées dans ces manuels scolaires. Sous-représentées, ça veut dire qu'on y entend à peine parler par rapport à leur réalité des femmes qui ont fait l'histoire, des scientifiques, des artistes, etc. Comme si toute cette histoire avait été faite uniquement par des hommes. Et deuxièmement, mal représentées, c'est justement la question du corps, c'est-à-dire que quand on y représente des femmes, je sais pas, dans des activités sportives, on a toujours l'impression qu'elles sont mal à l'aise, etc. Donc ça donne une image de filles qui ne sont pas faites pour faire du sport. Et cette question de la biologie, pour en venir à ce sujet, pourquoi est-ce qu'on représenterait mal, en l'occurrence, une partie des organes féminins? Pourquoi est-ce qu'on s'accommoderait de cette situation? Donc moi, je soutiens évidemment cette pétition.
Dessinons des clitos sur les murs.
Bien sûr.
Najat Vallaud-Belkacem, on a une proposition à vous faire.
Vous connaissez l'émission, on propose un sketch à l'invité pour jouer avec nous.
Oui.
Alors attention, pas n'importe quel rôle. Vous êtes Marlène Schiappa. Et à cacher votre bonheur, s'il vous plaît.
Ah non, ça c'est énorme.
Parce qu'il y a eu réunion ce matin. Emmanuel Macron avait réuni Édouard Philippe, Christophe Castaner pour parler des violences. Et qui c'est qui débarque? Et qui c'est qui débarque? C'est Marlène. On se rend sur place. Je fais Emmanuel Macron. Castaner, c'est Guillaume. Et Édouard Philippe, c'est Pablo. Bon, tout le monde est là. Édouard.
Oui, présent.
Christophe
Oui, pardon, présent. Oui,
tu peux couper ça, s'il te plaît, oui, Christophe pas, merci, je t'arrête jamais, en fait.
Non, jamais. Si je m'arrête, je commence à réfléchir et ça, je supporte pas.
Bon, je crois qu'on est au complet. Oui.
Salut, mes petites beautés.
Marlène, mais t'étais pas conviée à la réunion.
Depuis quand j'ai besoin d'invitation, moi? Je rentre dans toutes les soirées.
Ah bah, quand même, pareil.
Bon, bah, assieds-toi, on va parler de la stratégie de samedi.
Oui, j'avoue qu'on a été un petit peu débordé.
C'est-à-dire?
Bah, Tatiana a versé trop de champagne dans mon verre, j'en avais plein la cheminée.
Non, la manif des gilets jaunes.
Ah, pardon, la manif, bien sûr.
Ah, c'est sûr que moi, j'aurais pas du tout fait ça comme ça.
Hein.
Vous le faites pas mal.
je sais ce qu'il faut faire, moi. Je l'ai écrit dans mon dernier livre, 19,90€ chez Flammarion, disponible dans toutes les librairies.
Marlène, t'es avec nous, tu restes, tu te concentres.
Oui, pardon. Enfin, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut plus de fermeté, quoi.
Ah, tu veux pas mon poste non plus.
Bah, si tu me le proposes.
Mais très bonne initiative, Christophe. Voilà, merci, c'est réglé. Passons à la stratégie du gouvernement.
Je pense qu'il faut maintenir le dialogue.
Alors, si je peux me permettre, l'autre jour, je me regardais sur BFM et j'étais vraiment d'accord avec moi.
Oui, tu disais quoi?
Non, parce que je prends tellement bien la lumière, oui. Je suis rayonnante.
Mais non, tu veux pas mon boulot de Premier ministre non plus?
Je pense que c'est une vraie solution.
Et très bien, bah Edouard, tu retournes au Havre.
Non, retourne chez les pauvres.
Ben oui, bon. Et alors moi, Marlène, tu me conseilles quoi?
Il faut une présidence moderne, proche du peuple, et pourquoi pas une présidente?
Eh ben vas-y, prends-moi. J'ai failli me faire voir.
Caramba, encore raté. Et est-ce que, moi j'adore, est-ce que c'est pas kiffant de faire Marlène Schiappa? Moi c'est mon rôle préféré aussi. Vous le donnez volontiers.
Moi j'aimerais bien faire Marlène Schiappa une fois.
Merci beaucoup Najat Vallaud-Belkacem.
Merci.
On vous remercie d'autant plus que vous êtes très rare dans les médias, vous n'en faites quasiment plus. On vous a entendu chez Libadou et on était heureux de discuter avec vous. Voilà, vous êtes donc directrice de la collection Raison de Plus chez Fayard, professeure associée à sciences politiques et directrice générale des Global Affairs du groupe Ipsos. Et puis, je rappelle, vous avez écrit les paroles d'une chanson sur les réfugiés, mais oui, qui s'appelle Lampedusa, qu'on peut retrouver sur YouTube.
Interprétée par Marlène Schiappa.
Merci beaucoup, Najat Vallaud-Belkacem. On va vous laisser le mot de la fin, au langage quand vous étiez ministre.
Maintenant, je me rends compte que le vocabulaire que j'employais quand j'étais ministre m'était complètement à côté de la plaque.
C'est pas faute d'avoir essayé de vous le dire, hein.